Le Sénat a donné hier l'ultime feu vert parlementaire. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche est définitivement adoptée, même si la gauche compte saisir le Conseil constitutionnel. Bonjour Alain Fuchs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de chimie, vous avez présidé le CNRS entre 2010 et 2017 et vous présidez depuis 2017 l'université PSL comme Paris Sciences et Lettres, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel composé de 11 établissements. On peut citer l'École normale supérieure, l'École pratique des hautes études, le Conservatoire national d'art dramatique, l'Université Paris Dauphine ou encore l'École des mines. Il y a aussi 3 organismes de recherche, CNRS, INSERM, INRI. Et puis cet ensemble compte 17 000 étudiants. Nous parlerons des étudiants tout à l'heure, mais d'abord cette fameuse LPPR, votée après des mois de discussions et de protestations. En mars dernier, vous avez signé avec d'autres présidents d'université, vous étiez 8, une tribune dans Le Monde intitulée « La France a besoin d'une loi de programmation pluriannuelle de la recherche ». Est-ce que cette loi, celle qui a été votée, est celle que vous attendiez ?
Écoutez, je maintiens ainsi que mes co-signataires de cette tribune le fait que nous avions besoin d'une loi de programmation pour la recherche. Voilà. Je suis très content qu'on parle de la recherche. On n'en parle pas beaucoup, même s'il y a un peu de polémique autour de cette question. Le financement de la recherche a été mis sur le devant de la scène et c'est en soi une bonne chose parce que la recherche scientifique française était en train de décrocher, tout simplement. Voilà. C'est quand même le contexte que je voudrais rappeler ici. Lorsque j'ai achevé mon deuxième mandat de président du CNRS, ça avait été le cas déjà un tout petit peu avant, j'avais alerté les autorités et j'avais rédigé 2-3 tribunes à gauche et à droite sur le fait que on pouvait montrer précisément, de façon très objective, que les financements, la baisse des financements qui s'était produite pendant un certain nombre d'années conduisait la recherche scientifique française à décrocher au plan international. On peut citer quelques chiffres parce qu'on va pas multiplier les chiffres, mais on considère en général raisonnablement que un pays scientifiquement développé doit consacrer à peu près 3%, le fameux 3% de son produit intérieur brut à la recherche et le développement. Voilà. La France en est à 2,25 ou quelque chose comme ça. Sur ces 3% qui est une cible, l'Allemagne est par exemple au-delà déjà de 3%, la Corée est à plus de 4%, etc. Sur ces 3%, 1% reviendrait idéalement à l'investissement de l'État, l'investissement public, et 2% aux entreprises. Aujourd'hui, l'effort est fait à travers la LPPR, la loi pour la programmation pour la recherche. On va s'approcher en quelques années, peut-être une dizaine d'années, du 1%. Alors évidemment, on peut considérer que le compte n'y est pas, comme ça a été dit, entre guillemets, à différents
25
endroits.
Milliards donc pour la recherche entre 2021 et 2030.
Voilà.
C'est ce qui est...
Alors on est en droit de considérer qu'on aurait pu espérer plus, évidemment, il n'y a jamais assez d'argent. Je souligne quand même que si l'effort est fait là, il y a quand même un effort parce que la recherche scientifique française décrochait aujourd'hui, c'est quand même un coup d'arrêt. Voilà, c'est réel, il y a de l'argent. Et puis, il y a aussi, et c'est très important, des évolutions, des rémunérations, notamment des plus jeunes, des débuts de carrière. Les rémunérations, par exemple, de jeunes maîtres de conférences ou chercheurs ou jeunes chercheurs étaient considérées par beaucoup, y compris à l'étranger, comme scandaleuses. Donc là, il y a des évolutions qui sont tout à fait notables. Donc, il y a de l'argent. Est-ce qu'il y en a assez? Évidemment, ça fait l'objet d'une grande discussion. Est-ce que l'agenda de 10 ans est trop long? Parce que, voilà, il faut attendre plusieurs années pour que le financement, par exemple, de l'agenda...
Et puis que ça dépend des gouvernements qui suivront aussi.
Oui. Enfin, c'est une loi de programmation. Moi, je ne suis pas le porte-parole de la ministre. Je dis simplement que il fallait une loi, il y en a une. Elle est votée. On ne va pas... je pense qu'il n'est pas utile d'en rajouter dans la polémique. On aurait pu, sur certains sujets, espérer mieux. Voilà.
Sur quel sujet, alors ?
Ah, sur le, alors déjà le sujet du financement,
oui. Hein,
déjà le sujet du financement.
D'accord.
On aurait pu aussi envisager que les universités soient plus un peu plus dans le dans les préoccupations de la loi en face des organisations nationales de recherche. On a encore drôle de façon en France de considérer que la recherche est faite par les organismes nationaux de recherche et la formation par les universités. Mmh. Les universités, aujourd'hui, moi je représente une université, ce qu'on appelle une université de recherche. Nous sommes réunis dans une association qui s'appelle UDIS, des 10 universités de recherche intensive. Et la recherche scientifique, grosso modo, en France, elle se fait dans nos locaux, dans nos universités. Mmh. Je trouve que c'est pas suffisamment pris en compte de manière générale.
Alors la loi, vous l'avez dit, elle est votée, on en a déjà beaucoup débattu effectivement, mais au-delà des questions de financement, des postes, des craintes sur les postes, de la précarisation, etc., il y a quelque chose qui relève plus d'une vision, d'une philosophie quelque part, avec des financements concentrés sur une recherche sélective par projet. La crainte, on le sait, c'est de favoriser des projets qui ont un but pratique au détriment peut-être de la recherche fondamentale. L'idée est de dire aussi, quand on cherche, par définition, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, et au fond, peut-être aussi, il est question d'une crainte de recherche à deux vitesses, d'enseignement supérieur à deux vitesses. On peut vous dire, Alain Fuchs, que les établissements qui sont regroupés au sein de l'université PSL que vous présidez sont des établissements d'élite, d'excellence, et que c'est peut-être aussi pour ça que vous avez moins de crainte que d'autres.
Écoutez, oui, enfin, il faut faire attention quand on parle d'élite et d'établissement à deux vitesses. Parce que le système d'enseignement supérieur français est resté extrêmement uniforme pendant très longtemps avec l'idée que tout le monde faisait la même chose, ce qui est pas vrai. Tout le monde fait pas la même chose. Il y a des différences. Il y a des universités où on fait plus de recherches, plus de façon plus intensive, plus tournée vers l'international. Ça veut pas dire qu'elles sont meilleures, ça veut pas dire que ce sont l'élite. Ça veut dire que ce sont des universités qui font autre chose, qui ne font pas la même chose que toutes les universités. Donc il y a de l'excellence partout, et toute différence n'est pas une inégalité. Je veux dire simplement, par exemple, que on dit aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de financement sur les universités qu'on appelle l'IDEX pour l'initiative d'excellence, c'est-à-dire le programme d'investissement d'avenir, ce qu'on appelle le grand emprunt. Mm-hmm. On dit que nos universités, intensives recherches ont été favorisées. Elles ont été favorisées. Elles ont reçu un coup de pouce, tout simplement parce que dans une vision de financement uniforme des universités, les universités intensives recherche ne bénéficiaient pas d'un effort suffisant pour tenir compte de l'investissement en recherche, justement, qui se faisait dans ces universités-là. Les subventions pour charges de service public étaient relativement uniformes, et donc les universités intensives recherche devaient consacrer énormément de moyens à l'accueil de la recherche qui coûte de plus en plus cher. Et donc c'est en quelque sorte un juste retour de la considération selon laquelle, tout le monde ne fait pas la même chose. Le système d'enseignement supérieur est en train de se diversifier. Voilà, il y a une différenciation qui se fait. Il y a des universités qui font plus de recherches, d'autres qui en font moins. Et bien sûr que l'excellence est partout. Je ne crois pas du tout à l'idée de deux vitesses. Je pense que c'est plutôt de différenciation et diversification dont il faut parler.
Alain Fuchs, avec nous dans les matins du samedi. Nous vous retrouvons juste après la revue de presse des idées. Et nous sommes toujours avec notre invité Alain Fuchs, président de l'université PSL Paris Sciences et Lettres, qui regroupe 11 établissements, 3 organismes de recherche et compte 17 000 étudiants. Nous parlions de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, Alain Fuchs, juste avant la revue de presse des idées. Il y a dans cette LPPR une mesure qui a été introduite et qui est restée sur le délit d'entrave qui vise à pénaliser les intrusions de personnes extérieures dans les universités si elles troublent la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. L'opposition de gauche parle d'une mesure liberticide. Et vous ?
Oui, alors j'ai été très intéressé par ce qui vient d'être dit dans la revue de presse, parce qu'on peut, je crois, faire le lien entre la polémique sur l'article 24 de la loi sécurité et cet article-là de la loi. Ça tombe assez mal. La justification, on la connaît. Il s'agissait de lutter contre des intrusions, des tentatives de censure, de dégradation opérées par des personnes extérieures à l'université. C'était ça l'idée. Maintenant, effectivement. Alors tel que c'est rédigé, ça suscite un certain nombre de commentaires et on voit bien qu'en ce moment, nous vivons dans une époque éruptive, dans une époque un peu énervée, et donc la conjonction de ce qui se dit, qui est en très sérieux sur la loi sécurité, où on voit qu'on a là quand même des accusations assez sérieuses concernant un gouvernement qui prendrait des dispositions un peu liberticides. Hein. Mmh. Donc l'article en question dont vous me parlez dans la loi LPR, je dirais que c'est évidemment, ça ne peut aujourd'hui malheureusement que jeter de l'huile sur le feu. Il faut, je crois, faire extrêmement attention. Il y a sûrement des précautions, de très grandes précautions à prendre. Il s'agit évidemment d'être très très clair sur le fait que cet article de loi ne doit pas, absolument pas, empêcher les possibilités d'expression d'opposition ou de manifestation,
de débat,
etc. Voilà, c'est ce que craignent notamment les syndicats, c'est ce que craignent les syndicats étudiants. Je sens aussi que c'est quelque chose qui ne passe pas là extrêmement bien parmi nos collègues. Donc soyons extrêmement vigilants et on voit que là, la conjonction d'à peu près tout ce qui se passe en ce moment crée un climat qui n'est pas favorable.
Donc vous regrettez cette mesure.
Je pense qu'on aurait dû s'y prendre peut-être un peu autrement. Voilà.
Alors,
bien que les dégradations en question existent, enfin voilà, donc ça ne veut pas. Le sujet existe, il n'est pas nécessairement bien traité. Voilà.
Et il existe déjà des moyens, effectivement, de toute façon, de punir des dégradations.
Voilà.
Avant cela, Alain Fuchs, il y a donc cette contestation forte contre la LPPR. Il y a eu récemment aussi, et je voudrais qu'on en parle, ces oppositions très vives après les propos de Jean-Michel Blanquer sur l'islamo-gauchisme à l'université. Il y a un climat tout de même particulièrement tendu. Le débat est compliqué. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est tant mieux ou est-ce que c'est inquiétant?
Oui, le climat général est tendu, le climat général est, je l'ai dit tout à l'heure, énervé. Je constate que, en référence à ce qui vient d'être dit tout à l'heure, sur la question de la haine en ligne, je constate que malheureusement les gens s'expriment comme s'ils étaient sur un réseau social, c'est-à-dire sous forme d'invective en 240 signes, et la richesse du débat en pâtit énormément. Hein. Envoyer dans le débat public des termes comme islamo-gauchisme, il faut quand même faire extrêmement attention. Les accusations qui ont été portées, et pas seulement par le ministre, mais qui ont été portées à différents endroits, il y a eu une longue tribune dans Le Monde, sont pour le moins excessive et pas toujours bien étayée. Il y a eu une réaction de la conférence des présidents d'université.
Absolument. Dont vous êtes membre.
Oui, absolument. Nous sommes membres, tout à fait, comme toutes les universités. Une réaction de la conférence des présidents d'université qui disait, d'ailleurs, je crois que la ministre de l'enseignement supérieur l'a dit également, il faut raison garder les études universitaires, les recherches qui sont menées, ont vocation à étudier, à critiquer, à prendre en compte les mouvements sociaux qui se déploient et pas à soutenir tel ou tel mouvement de type islamiste ou autre indigéniste ou quoi que ce soit de ce type-là. Il y a beaucoup d'exagération, le débat n'est pas serein et je crois qu'il faut surtout aujourd'hui veiller à ne pas en rajouter dans la polémique.
Non, les universités ne sont pas des lieux où se construirait une idéologie qui mène au pire, c'est ce qui a été écrit notamment donc dans cette réaction de la CPU par communiqué. Alain Fuchs, je voudrais qu'on parle des étudiants. Il y en a 17 000 donc dans cette université PSL, ce regroupement d'établissements que vous présidez. On sait qu'un minimum, certains d'entre eux, vont mal, sans dire que tout allait bien précédemment. Vous avez signé une tribune collective en début de semaine dans Le Monde intitulée « La crise de la santé mentale étudiante précède le Covid et ne s'éteindra pas avec elle ». Pour commencer sur la situation aujourd'hui, êtes-vous inquiet?
Oui, absolument. Ce sont des termes qu'il faut utiliser avec parcimonie, parce que dans notre milieu, on est tout de suite très très inquiet. sur à peu près tout, alors que nous sommes fonctionnaires, enfin nous avons quand même tout un certain nombre de conditions de vie qui ne sont pas si épouvantables que ça. En revanche, dans ce cas très précis, oui, absolument, il y a une vraie inquiétude et je suis personnellement inquiet. En tant que président de l'université, je ne suis pas le seul, mes collègues présidents de l'université à différents endroits peuvent en témoigner également. Il y a un sujet majeur aujourd'hui, c'est celui de la santé mentale étudiante. Mmh. Il faut savoir que ce sujet a été trop longtemps négligé dans notre pays. Un chiffre, nous avons dans l'université française, dans le système de l'université française, un temps plein de psychologues pour 30 000 étudiants. Voilà. Ce chiffre est à comparer à ce qui se passe dans un certain nombre de pays, dont l'enseignement supérieur est développé. Au lieu de 1 pour 30 000, on est plutôt dans 1 pour quelques milliers. Et aux États-Unis, par exemple, c'est 1 pour 1500 étudiants. Mmh. Les États-Unis ont pris depuis longtemps dans leur système universitaire, qui n'est pas seulement fait des très grandes universités dont on parle tout le temps, Harvard, MIT, mais ce qu'on appelle des collèges universitaires, qui sont souvent l'équivalent de nos premiers cycles, de nos licences, et qui sont très très nombreux aux États-Unis. Ils ont pris conscience depuis fort longtemps de la fragilité étudiante à des niveaux justement qui sont ceux notamment des premières années d'université.
Et donc là, dans cette tribune, vous en appelez à l'État, vous demandez un budget. Est-ce que vous avez eu un retour, une réaction depuis que ça a été publié?
Pas encore. L'État, le ministère, dans le cadre de la loi OR, O-R-E, hein, orientation et hein, bon, je, voilà, donc c'est une loi importante, hein, a mis en place ce qu'on appelle la contribution, la CEVEC, contribution vie de campus et vie étudiante et vie de campus. CEVEC, la CEVEC, que chaque étudiant paye, c'est à peu près 90-91 euros par étudiant, et cette CEVEC donc est versée au CROUS, lequel reverse aux différentes universités en fonction des mesures qui sont prises pour améliorer la vie étudiante. Le grand sujet, c'est que nous avons en France négligé les questions de vie étudiante. Mmh. Depuis fort longtemps, sans doute depuis les années 70, l'augmentation massive du nombre d'étudiants dans les universités n'a pas été suivie par... alors, il y a eu des plans campus, des améliorations de l'immobilier, mais la notion même de campus universitaire, lieu de vie étudiante, est quelque chose qui est très 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 peu, qui a été très très peu développé en France, et nous en payons le prix aujourd'hui. Évidemment, la prise de conscience est liée à la crise sanitaire qui n'arrange rien, parce que les étudiants, les questions de solitude, les étudiants
sont... Qui aggravent même très clairement les choses.
Non, ça les aggrave, mais une fois la crise passée, une fois la crise derrière nous, il faut bien se rendre compte qu'on aura à payer les pots cassés, parce que les dépressions, les envies de suicide, etc., les angoisses ne disparaîtront pas comme ça. Les atteintes à la santé mentale des étudiants, il va falloir les traiter sur le long terme et donc améliorer considérablement notre traitement de la santé étudiante d'une manière générale, en particulier de la santé mentale.
La loi OR, c'est la loi relative à l'orientation, voilà. et la réussite des étudiants.
Ouais. Voilà, et qui était notamment très très ancré sur la question de la vie étudiante, parce qu'il y a du rattrapage à faire. On ne peut pas dire que le gouvernement n'ait pas souhaité faire quelque chose. Il y a cette fameuse CEVEC, mais c'est aujourd'hui, on le voit bien avec la crise sanitaire, très largement insuffisant. Encore une fois, un psychologue pour 30 000 étudiants, c'est tout à fait impossible et inacceptable.
Il faudra travailler à ça au moment où les étudiants finiront par revenir bientôt, on espère, et aussi peut-être avec les enseignants, pour lesquels on imagine que la situation n'est pas forcément évidente non plus en ce moment. À la Fuchs, vous restez avec nous pour le dernier quart d'heure des matins du samedi, les 8h46.